L'immobilier, les vérités qui dérangent avec Thierry Delsal sur Radio Immo.
Bonjour. Eh bien, cette fois-ci, nous allons évoquer le ZAN. Et le ZAN est-il vraiment réaliste ? Alors, pour parler de cela, j'ai invité Jean-Luc Porcedo, qui est président de Nexity Transformation des Territoires, également président de Ville et Projets et membre du conseil d'administration de la fondation Nexity. Tout ça chez Nexity, après une longue carrière dans le public, d'ailleurs. Alors, le ZAN, je voulais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, même si maintenant tout le monde un peu en parle dans l'immobilier, mais c'est un conglomérat de lois. C'est un peu comme la rénovation énergétique de l'émission que j'ai faite. Il y a une accumulation de lois pour le ZAN. C'est la loi climat et résilience, bien sûr, la loi 3DS, et puis après vous avez eu des arrêtés. Et tout récemment, une loi en juillet, le 20 juillet, qui est venue peut-être calmer un peu le jeu. On a parlé de la contrainte à l'incitation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sénateurs qui étaient montés au créneau après ces arrêtés qui n'étaient pas fameux, ont eux-mêmes fait ce projet de loi on va dire, maintenant, on est à peu près dans la concertation. Justement, par rapport au titre, est-ce que ce ZAN est toujours réaliste ?
Alors, effectivement, au départ, les premières démarches, et surtout les premiers décrets, donc de l'avant-avant-dernier gouvernement, avaient été faits, on va dire, de manière un peu particulière, de manière assez éloignée des problématiques et des réalités des territoires. Un des enjeux de ce type de projet de loi, d'abord, c'est de faire un constat, de partager un constat. Le constat, il est, on va dire, d'abord environnemental, la responsabilité des acteurs, des territoires et des opérateurs ou des professionnels de prendre une trajectoire, de prendre une direction, parce qu'aujourd'hui, les problématiques environnementales, les problématiques de diversité, voilà, je crois que tout le monde en a conscience, des entreprises comme Nexity, on est fortement engagé sur ces sujets-là. Et donc, le premier des sujets, c'était d'arriver à un consensus sur le diagnostic.
Mais est-ce qu'il y a une étude d'impact du ZAN ?
Alors, il y a dans toutes ces procédures, chaque fois qu'il y a une velléité de construire, d'aménager, il y a une obligation sur les études d'impact. Mais c'était d'abord de tomber d'accord sur le constat, et essentiellement entre les collectivités territoriales et l'appareil de l'État. Et puis, il y avait eu des décrets qui étaient sortis, qui étaient un peu en dépit du bon sens. Et donc, tout ce travail a été, stoppé, arrêté, à l'arrivée du ministre Monsieur Béchu. Et il y a eu de nouveau une séquence de travail entre les élus, l'État et les parlementaires pour, on va dire, trouver les voies du consensus et surtout de la raison. Et je crois que ces choses-là ont plutôt bien fonctionné. C'était porté d'un côté par le sénateur Blanc, le Sénat avait organisé une commission spéciale, et puis à l'Assemblée, ils ont voulu aussi aller sur ces sujets-là. Et à la fin, il y a eu consensus, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle une CMP, projet de loi sur lequel le Sénat et commission mixte paritaire, représentée par des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qu'à l'issue de cette CMP, il y a eu un consensus sur le projet de loi. Alors, il y a encore des décrets qui doivent sortir, mais je crois que ce travail de consensus, de concertation et en même temps de compréhension des enjeux, dans leur grande sagesse, on va dire, les parlementaires Sénat et Assemblée ont réussi à tomber d'accord. Pourquoi c'était très important ? Parce que, mais là c'est mon point de vue, mon sentiment, c'est que les sujets qui concernent les territoires, le développement des territoires, doivent quand même en partie être pilotés, écoutés par les représentants de ces territoires. Et la place des élus, par exemple, a été à un moment donné un vrai sujet de discussion et de désaccord. La place des élus, la capacité dans quel calendrier s'inscrire, comment on tenait compte de ce qui s'était passé avant, comment on ne tenait pas compte de grosses infrastructures, de grands projets, par exemple.
Oui, donc on a rajouté quelques petits délais, six mois de l'autre.
Les parlementaires, je disais, dans leur grande sagesse, ont trouvé le consensus pour avoir le bon curseur entre les prérogatives des élus locaux, l'écoute et la concertation au niveau des territoires, le respect de ce qu'était avant, le respect des procédures déjà engagées, ne serait-ce que par exemple les ZAC, est-ce qu'elles devaient être inscrites ou non dans les projets de ZAN, ce qui était déjà parti, parce que là, il y a une inégalité de traitement. Donc là-dessus, je crois que les choses ont été bien faites. Après, certains peuvent dire on est totalement contre le ZAN parce que c'est un frein au développement des territoires. Nous chez Nexity, on n'avait pas complètement ce point de vue, parce qu'on est, et le pôle que je dirige c'est sa vocation première, c'est accompagner les élus et les territoires. Et donc, nous, il nous semblait, nous ne sommes que des professionnels, qu'il était important d'abord d'être d'accord sur le diagnostic, d'accord sur la projection qu'on mettait, sur la non-artificialisation, le calendrier de la non-artificialisation, et d'accord sur comment on tenait compte de ceux qui avaient beaucoup, beaucoup développé, parfois pas très bien, et puis de ceux qui avaient avancé avec raison dans le développement des territoires et qui allaient se retrouver pénalisés. Oui. Tout ça, aujourd'hui, est à peu près atterri.
Parce que pour rappeler aux auditeurs, en fait, le ZAN, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est qu'on ne pourra pas, à partir de 2050, artificialiser, c'est-à-dire construire...
Plus.
Sur un terrain, admettons, de 1000 mètres carrés, que si on rend à la nature
tout à fait.
Un terrain d'égal superficie.
Ça s'appelle de la compensation.
Voilà, donc, de la compensation. Et pour autant, avant 2050, là, il y a une réduction de moitié de ce qui s'est fait sur les 10 dernières années, qui doit être fait d'ici 2031, je crois, un truc comme ça. Et de 2031 à 2041, ça va être encore réduction de moitié, et encore réduction de moitié de 41 à 50.
Et puis d'ici là, peut-être qu'il y aura des choses qui évolueront, parce que parfois, le propre de la loi, c'est des fois de s'adapter. Mais en même temps, cette notion de trajectoire, elle était importante. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui a été fait avant ne va pas disparaître. Et la trajectoire permet aussi aux élus de s'adapter, de travailler dans une bonne coordination entre, on va dire, les collectivités, souvent les intercommunalités, et l'État local, sous, on va dire, l'égide ou sous la... une espèce de chapeau régional, parce que c'est aussi, parfois une des bases de péréquation, l'échelon régional, entre le développement des territoires.
Et d'après ce que j'ai compris, en province, le ZAN est peut-être beaucoup plus mal perçu qu'en Île-de-France.
Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que...
Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de friches en Île-de-France.
Oui, et puis simple raison aussi parce que un territoire qui ne se développe pas, une commune qui ne construit pas, est un territoire qui va mourir ou une commune qui va mourir. Mmh. Ça, le propre des territoires, c'est de se développer. Alors, il faut se développer avec raison, se développer en tenant compte des enjeux, en particulier aujourd'hui environnementaux, mais aussi de mobilité, d'énergie, de services, bon, tous ces éléments qui participent à la fabrique de la ville, comme on dit généralement. Mais en même temps, si on met des coups d'arrêt, ce sont des territoires qui, entre guillemets, vont, à l'avenir, ralentir, parfois mourir. Et puis ce qui était, mais ça aussi c'était un point de vue personnel, ce qui était important par rapport aux ZAN, moi je suis un fervent partisan de la question de l'aménagement du territoire. Parce que je crois que la France a une tradition de l'aménagement du territoire et qu'on a eu beaucoup d'investissements publics dans les 30-40 dernières années avec une logique d'aménagement du territoire. Et le ZAN doit garder cette approche-là. C'est pour ça que l'échelon régional a du sens, mais les acteurs locaux, les collectivités, les intercommunalités aussi et beaucoup, on doit garder à l'esprit de dire, bah voilà, si on veut développer, il faut un aménagement harmonieux entre tel et tel secteur du département. C'est une démarche, on va dire un prisme, j'ai envie de dire politique, entre guillemets, non partisan, mais un prisme politique de développement, l'aménagement du territoire, à regret pour ma part, qui a été un peu abandonné ces dernières années. On voit bien les conséquences quand il y a des politiques publiques d'aménagement du territoire. En France, le plus simple à voir, ce sont les infrastructures de transport.
Oui, et là maintenant, avec cette loi, tout ce qui était transport, tout ce qui est aménagement fait par l'État, va être enlevé du ZAN.
Et heureusement.
Eh oui, mais ça, c'est quand même...
C'était pas le cas dans le premier projet.
C'est quand même le...
Heureusement, c'est-à-dire que si on considère que... Voilà, qu'il y a des grands, ce qu'on appelle des grands projets ou des grandes infrastructures, si c'est à l'époque, il y avait beaucoup de débats, mais à juste titre, parce que c'était une aberration, si c'était comptabilisé dans l'artificialisation, ça veut dire que, il suffit qu'il y ait une ligne de transport, une infrastructure routière, plus rien ne pouvait se faire. Donc là, c'était... Alors, je crois qu'il y avait plein d'exemples de choses qui avaient été introduites.
Notre-Dame-de-la-Lande va...
Non, ce ne sont pas mes sujets. Mais il y avait eu les parcs publics qui étaient considérés comme artificialisés. Enfin, voilà, il y avait parfois des aberrations qu'on peut voir quand les lois sont écrites trop vite, ou les décrets, et puis sans trop connaître peut-être la réalité des territoires français. Parfois, écrire des décrets ou des lois sans être, bien imprégné de la réalité des territoires. Mais ça, c'est derrière nous. La CMP a atterri sur quelque chose d'à peu près consensuel, et je crois que le projet de loi ou la CMP, il y a eu un consensus pour qu'il y ait adoption à la CMP, mais il y a eu un consensus aussi politique dans l'explication des décisions et de la trajectoire qui était prise. Et je crois qu'aujourd'hui, le débat du ZAN, il va falloir veiller à garder cette trajectoire, à veiller à accompagner le développement des territoires, mais le débat du ZAN est un petit peu derrière nous, parce que le consensus a été trouvé et il y a une forme d'acceptabilité. À partir du moment où les parlementaires, Sénat et Assemblée se sont mis d'accord, le ministère, a joué son rôle pour que tout le monde se mette d'accord, ça va se décliner, et les associations d'élus qui étaient fortement aussi impliquées, les associations des maires de France, les associations des élus des communes rurales et ainsi de suite, tout le monde était impliqué. Et donc, une fois qu'il y a consensus, on va dire cette étape-là est derrière et maintenant il faut mettre en œuvre. La question qui est posée aujourd'hui, c'est que je dis le ZAN ou les problématiques du ZAN sont maintenant derrière nous sur l'acceptabilité et la mise en œuvre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui était pointé il y a quelques mois par tous les débats autour du ZAN, à ces questions-là se sont rajoutées, on va dire, différentes choses sur le secteur de l'immobilier et la crise du logement qui viennent rajouter des difficultés sur des difficultés. Le but premier du ZAN, c'est de moins étaler l'urbain, de moins étaler la ville, pour faire simple. Après, c'est, je crois qu'on a raison de s'engager sur ces choses-là, mais en même temps, en contrario, il faut quand même continuer à essayer de loger nos concitoyens. Et le synonyme ou ce qui va systématiquement avec les questions sur le ZAN, c'est la maison individuelle. La maison individuelle, parce qu'elle a participé à cet étalement, on a tous en tête des zones pavillonnaires autour de chaque agglomération. Bon. Et aujourd'hui, le gouvernement, dans ce qu'il prépare, les conclusions qui ont été énoncées...
Mais les zones commerciales aussi.
Après, ça vient après, dans mon explication, dans ce qui a été annoncé post-CNR, et ce qui semblerait être en préparation dans le projet de loi de finances, c'est la fin du PTZ. C'est-à-dire la fin d'un dispositif qui permet d'accéder à un prêt à taux zéro pour amorcer la pompe pour aller chercher un prêt rémunéré auprès des banques.
Pour se lancer dans l'immobilier.
Pour se lancer dans, on va dire, le parcours résidentiel. Et qui est concerné par ces sujets-là ? Ce sont les jeunes qui veulent décohabiter.
Les
primo-accédants. Et souvent des populations qui ont des petits revenus. Donc le ZAN, qui est lié à la fin ou la volonté d'arrêter un peu la maison individuelle et de dire il faut plus densifier, donc plus de collectifs.
On construit la ville sur la ville.
Simplement, je dis moi souvent, on ne va pas obliger les Français à leur dire maintenant c'est comme ça et pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais le ZAN et les sujets d'aujourd'hui sont peut-être plus prégnants et plus inquiétants sur les questions d'immobilier. La fin du PTZ, la difficulté, voire la fin d'accès au crédit, parce que des fois, moi je vois sur des territoires, les banques refusent systématiquement ou posent de telles conditions que c'est... Voilà. L'augmentation des matériaux et des coûts de travaux, parce qu'il se passait quelque chose il y a quelques mois, ça s'appelait la guerre en Ukraine, qui a fait flamber les coûts de travaux, et ça continue, même si ça stagne un petit peu aujourd'hui, ça a monté tellement haut que...
Mais ça a pas commencé. Tous les signaux sont au rouge.
Ça n'a pas commencé à redescendre. et puis en miroir de ça, on va dire toutes les questions, mais qui sont le miroir du ZAN pour moi, les questions posées par l'acceptabilité de la densité. C'est-à-dire, je suis d'accord pour dire qu'il faut limiter l'étalement, mais il faut quand même essayer de se dire on va loger nos concitoyens, et donc si on veut limiter l'étalement, il faut que concomitamment, on accentue ou on travaille sur la densité dans les zones denses. Ou dans, on va dire, de reconstruire ce que vous disiez, la ville sur la ville. Sauf qu'on sait que la densité, elle est, pour des raisons... de mon point de vue, souvent lié à la représentation qu'ont nos concitoyens sur l'urbanisme. La densité, c'est synonyme de tour, c'est une synonyme de construction rajoutée. Et on sait que l'acceptabilité de la densité, c'est un sujet sur lequel les élus sont très 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 vigilants. Parce que s'il y a de la contestation... Ah, forcément, il y a un impact politique pour les prochaines élections.
C'est dans le monde entier. Moi, je reviens de San Francisco, où vous connaissez peut-être le secteur de San Francisco, où le logement est en crise depuis très longtemps. Et c'est tellement en crise qu'aujourd'hui, ça a créé un phénomène de homeless, des SDF californiens. C'est vraiment la très grande majorité. Ce sont des Californiens qui sont dans les centres-villes, vidés, parce que les centres-villes, dans ces villes-là, c'est des bureaux. Ouais. Et les bureaux, vous avez aujourd'hui, depuis le Covid, les bureaux sont vides avec le télétravail. Et donc, il y a un engrenage qui s'est fait que ces centres-villes sont vides aujourd'hui. Alors, tout le monde se dit, tiens, on va peut-être réhabiliter tous ces bureaux en logement. La belle solution. Pourquoi ? Parce qu'à San Francisco, tous ceux qui... Vous savez, ces belles maisons pastel et autres, comme dans beaucoup de pays et dans beaucoup de villes en France, les propriétaires bloquent totalement tout projet d'urbanisme.
Bien sûr.
Et donc, il y a une spéculation qui s'est faite à San Francisco. Aujourd'hui, les prix ont flambé.
Mais c'est une des difficultés. C'est-à-dire que si, à juste titre, on se dit qu'il faut diminuer l'étalement urbain d'abord pour une problématique environnementale. C'est un vrai sujet. Bon. Mais qu'en même temps, on se dit on va pas avancé sur la densité, l'acceptabilité de la densité, parce qu'aujourd'hui on peut faire des choses denses tout à fait acceptables, mais qu'aujourd'hui c'est quand même pas une tendance lourde, c'est voire même pas une tendance tout court.
Et pourquoi on ferait pas une ville nouvelle ?
Et donc, en fait, on est bloqué. D'un côté, on peut pas s'étaler, de l'autre côté, on peut pas construire là où on a déjà construit. Et en fait, la conséquence de tout ça... Bien sûr, dessus, se rajoutent les questions de taux d'intérêt, de coûts de matériaux, de prix de foncier, d'accès au crédit, ainsi de suite. Ça veut dire que la conséquence de tout ça, c'est qu'on ne construit plus. Et encore une fois, je vous dis ce que je disais au début de mes propos, quand on ne construit pas, c'est un territoire qui se met en danger. Et puis, tout simplement, même si dans 15 ans, les courbes démographiques vont un peu s'atténuer, aujourd'hui, et on le voit, on est dans cette période-là de rentrée scolaire, de rentrée universitaire, on voit bien que partout en France... la question de l'accès au logement pour des étudiants, c'est un énorme problème pour plein de familles françaises. Alors, on va dire, tout le monde se débrouille un peu en système D. Mais en même temps, on a beaucoup travaillé, je parlais tout à l'heure de développement de territoire, on a beaucoup travaillé, le monde universitaire, hein, et les collectivités ont beaucoup développé des universités, des écoles, de commerce, différentes choses sur leur territoire, Lille, Lyon, Marseille, bon, bien sûr Paris, Nantes et d'autres. Et en même temps, l'accès au logement pour les étudiants est complètement fermé. C'est un vrai sujet.
Ouais, j'en parlais l'autre jour avec une représentante du logement social et qui nous disait que aujourd'hui le parcours résidentiel qui existait avant, où au début on allait dans le logement social et petit à petit on en sortait pour aller dans le logement locatif privé et après on achetait. Et tout ça est complètement bloqué, parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le logement social, on irait jusqu'à la fin de sa vie.
En fait, il y a des blocages en ce moment, c'est que le secteur depuis quelques années, mais surtout depuis 2 ans, est dans une situation de blocage total. Tout est à l'arrêt. C'est-à-dire, vous avez raison, avant, quand on était dans le logement social, au bout d'un moment, on essayait soit d'aller dans du locatif privé, mais surtout d'aller dans de l'accession, ce qui permettait de libérer des places pour du logement social. Donc il y a eu d'abord, les bailleurs sociaux ont un peu moins de réserves, un peu moins d'argent, on a un peu ponctionné. Mais comme on ne construit plus, en fait ce parcours résidentiel, il est fermé. Quand je disais tout à l'heure la suppression du PTZ, c'est-à-dire on est primo-accédant, on pouvait mettre un pied sur le parcours résidentiel, maintenant c'est plus possible. Donc en fait, en conséquence, tout se fige. Et alors, celles et ceux qui sont dans des logements sociaux ne vont pas bouger. Celles et ceux qui sont dans des appartements, entre guillemets, où ils voulaient bouger parce qu'il y a un enfant qui arrive, donc il faut s'agrandir, ne vont pas bouger.
Ah ben non, là, ils ont eu un taux à 1%. Pourquoi voulez-vous qu'ils bougent pour réemprunter
donc,
à
5%? Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'actualité aujourd'hui sur le marché locatif. Il n'y a pas d'offre. Et la caractéristique de la crise dans laquelle on est, c'est, bien sûr, il y a une crise bancaire. Il y a une augmentation extrêmement rapide des taux d'intérêt, mais en fait, il y a concomitamment une crise de l'offre et de la demande, ce qu'on n'avait jamais connu antérieurement. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que tous les professionnels du secteur de l'immobilier, pas juste les promoteurs, le BTP, les agences immobilières, enfin le MEDEF, tous les secteurs qui sont concernés, sont unanimes sur le niveau de la crise. Aujourd'hui, sur ce secteur-là.
Cette bombe sociale.
Une bombe sociale, je dirais, en fait, c'est on maltraite notre jeunesse, on maltraite celles et ceux qui voudraient, pour ce qu'on appelle les primo-accédants, mettre un pied.
Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas s'il n'y a pas une aide paternelle, maternelle,
mais
ou
même
des
ça,
grands-parents.
Même quand il y a une aide, les demandes des banques sont tellement importantes.
Ou alors
importantes.
Il faut qu'ils aillent plus loin, toujours moins cher.
Oui, mais on revient pour le coup à ce sujet de notre échange, c'est Lausanne. Ils vont plus loin quand ils ont, parce qu'il y a eu ces suppositions, ils vont plus loin dans des villes, des grosses agglomérations, des villes moyennes, souvent le long d'infrastructures de transport d'ailleurs, hein, mais qui sont beaucoup développées, à juste titre, parce qu'il y avait eu un peu d'aménagement du territoire, et parce qu'il faut aussi le dire, des élus qui ont porté leur territoire, mais où le prix de l'immobilier a augmenté. Donc en fait, même partir loin, dans d'autres villes, dans d'autres agglomérations, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Alors partir là où il n'y a rien, c'est simple. parce que le prix est peut-être moins important, mais ça veut dire des voitures, ça veut dire des coûts de fonctionnement de la vie quotidienne beaucoup plus importants que dans les zones denses. Et donc, en fait, avec ce qui se passe au niveau de l'inflation, ça ne tombe plus dans les familles. Et on sait bien qu'il y a des mouvements de temps en temps, par rappeler ce qui s'est passé à un moment donné, il y a 2 ans ou 3 ans, autour des ronds-points, mais c'est aussi ce type de problématique qui a déclenché, qui ont déclenché ces mouvements.
Et alors, pour avoir un petit peu d'espoir, puisqu'on parlait du ZAN, est-ce que vous pensez que de bâtir sur les friches industrielles, c'est une solution ?
Alors, bien sûr que c'est une solution. Moi, une des filiales que je dirige travaille depuis 20 ans sur la restructuration de friches industrielles. C'est notre métier de départ, j'ai envie de dire. On va chercher des friches, on les achète, on les dépollue et on reconstruit.
Mais après, ça va coûter très cher.
On a eu... Ah, oui, mais après, ça, c'est une histoire de bilan. Mais c'est parce que nos concitoyens avaient une capacité d'acquisition qu'on pouvait faire des montages où c'était un peu plus simple de les faire. L'histoire de Nexity, c'est des grandes friches comme les usines Alstom à Saint-Ouen. C'est les usines PSA à Agnières, ce sont les usines Berlier à Saint-Priest. Donc c'est dans mon ADN de mes filiales. Et on continue aujourd'hui. Je travaille à Saint-Jean-de-la-Ruelle à côté de Orléans. C'est une friche Renault. Je travaille à Hérouville-Saint-Clair. C'est une friche du moment de la construction de Caen-le-Port. Je travaille en Alsace. C'est une ancienne raffinerie de pétrole.
Donc le coût du foncier dans ces cas-là ?
Ça dépend. Ça dépend de là où c'est placé, ça dépend du niveau de dépollution, ça dépend de tout un tas de choses, mais bien sûr que c'est une alternative. Aujourd'hui, il faut chercher des alternatives sur où construire. Ensuite, comment construire ? Ça sera un autre débat. Mais où construire ? Il y a des endroits où on sait qu'on peut aller construire, parce que ce sont soit des friches industrielles, soit le sujet d'aujourd'hui, ce qui a été annoncé ce matin en conférence de presse par le ministre, les entrées de ville. C'est-à-dire des zones... Moi, j'avais l'habitude de dire la ville s'étend quand elle peut, quand elle a le droit, et le périurbain ou le rural remonte. À l'intersection des deux, il y a dans toutes les villes de France et de Navarre les entrées de ville. Des zones monofonctionnelles autour de l'activité commerciale, des zones où il n'y a pas d'habitants, donc on parlait de l'acceptabilité, ça peut être plus facile. Et en même temps, c'est des territoires de transformation. C'est là où il faut agir. Moi, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des entrées de ville. On a des partenariats très très forts avec des entreprises de la grande distribution. Un dernier extrêmement fort, le plus gros partenariat en France entre Carrefour et Nexity, parce que la société Carrefour et la société Nexity ont compris que la convergence de leurs partenaires et de leur savoir-faire est donnée la capacité à transformer. Les entrées de ville, c'est effectivement un territoire de demain sur l'extension et la transformation urbaine. Les friches, ça en est aussi un des sujets. Après, il y a des friches dans des territoires où il n'y a pas d'activité. Ça va être difficile de construire parce qu'il n'y a pas d'habitants qui vont vouloir y venir puisqu'il n'y a pas d'activité autour. Donc en fait, c'est aussi toute la difficulté des métiers que l'on peut faire autour de l'immobilier. Quand je dis autour de l'immobilier, c'est l'aménagement, c'est mon métier, c'est la promotion, c'est le commerce, ce sont les services, c'est le tertiaire parce que tous ces sujets-là évoluent et la ville se fait avec la capacité à assembler toutes ces problématiques. Moi, quand je me définis, je dis que je suis aménageur et ensemblier urbain. C'est-à-dire que je mets ensemble des métiers, des compétences différentes. Aujourd'hui, on ne fait plus la ville sans parler de mobilité, bien évidemment, sans parler d'énergie, sans parler de récupération des eaux usées, par exemple. La question des eaux grises est un sujet qui va monter en puissance en France, parce que pour l'instant, on ne le regardait pas. Alors, on le fait sur quelques projets. Mais donc, les entrées de ville, c'est un sujet c'est un territoire dans les territoires où, effectivement, on va pouvoir restructurer l'urbain.
Bon, si je comprends bien, le ZAN, c'est pas si catastrophique que ça.
Non, le ZAN, la puissance publique et les élus, l'appareil de l'État et les parlementaires ont montré que sur le ZAN, on pouvait y avoir, on va dire, du consensus pour garder des objectifs à la fois de développement et de respect des trajectoires environnementales.
Merci Jean-Luc Porcedo pour tous ces éclairages qui, j'espère, vont satisfaire et peut-être donner un peu des notes d'espoir à tous les auditeurs.
Merci à vous.
L'immobilier, les vérités qui dérangent, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.